Eh bien, everybody's there. Voilà. Alors, c'est le dernier pour la route, est-il marqué sur le programme. Donc, c'est vraiment le dernier café littéraire de ces Imaginales 2010. Et on pose à ces écrivains la question qu'on aurait dû poser depuis longtemps, en fin de compte. Pourquoi écrire? Pourquoi sont-ils écrivains? Autour de moi, il y a Greg Keyes, à ma gauche, qui est américain et qui a dernièrement publié en France pas mal de bouquins, les quatre volumes de l'âge de la déraison, Pocket, les quatre volumes des Royaumes d'épines et d'os, Pocket aussi, et puis maintenant deux volumes de la série Les élus du Changeling, Les enfants du fleuve, et puis Le dieu noir, qui sont au fleuve noir. À ma droite, Jean-Philippe Jaworski, grand prix de l'imaginaire de l'année passée, des imaginales de l'année passée, avec Gagner la guerre, Au mouton électrique, et vient de ressortir aussi Au mouton électrique Janua Vera, qui était son précédent ouvrage, dans une version augmentée. À sa droite, Ayerdal, un vieux de la vieille, si j'ose dire, dernier roman, Résurgence, au Diable Vauvert, qui en a profité pour rééditer, je crois, plusieurs volumes, en tout cas, je crois que c'est six volumes de ses précédents romans, ce qui fait une très belle bibliothèque à lire et à relire. Et enfin, à droite, Lionel Davout, que vous connaissez si vous fréquentez ses imaginales, il y est un peu partout, et même à la télévision, on en parlait il y a deux minutes, pour présenter ce festival. Et lui, il vient d'écrire de publier La volonté du dragon aux éditions Critiques, qui a d'ailleurs été un des finalistes du Grand Prix des Imaginales romans français cette année. Alors, la question est, pourquoi être écrivain? Je suppose, Greg Keyes, que c'est uniquement pour l'argent.
It's better than ironing newspapers.
Eh bien, en fait, ça vaut mieux que de repasser des journaux.
Which is what I was doing before I was published.
Ce qui est, en fait, c'était ça que je faisais avant d'être publié.
Ironing them flat so they could be microfilmed 8 hours a day.
Pendant 8 heures par jour, en fait, je les repassais pour qu'ils puissent être assez plats pour être microfilmés.
For years and years.
Pendant des années et des années.
No, I've always wanted to be a writer. As soon as a child, because I loved books as a child.
En fait, non, j'ai toujours voulu être écrivain. Dès enfant, j'adorais les livres étant enfant.
You know, and as soon as I realized that there was somebody writing those books, that's who I wanted to be.
Dès que j'ai réalisé en fait qu'il y avait quelqu'un qui écrivait ces livres, c'est ça que j'ai voulu faire.
So as a child, you know, I made little books out of yarn and paper and so forth.
Yarn.
Kind of string you knit with.
Donc quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je faisais des petits livres avec du papier, je les faisais les moi-même.
But for any deeper explanation of why that appealed to me.
Mais en fait, pour avoir une explication plus profonde de ce qui m'attire là-dedans.
It's so deeply buried in my childhood, I can't honestly say.
En fait, je peux pas vraiment vous dire parce que c'est tellement profondément enfoui dans mon enfance, je saurais pas répondre.
But it is better than ironing newspapers.
Mais c'est quand même bien mieux que de repasser des journaux.
Alors, Ayerdal, c'est aussi l'argent qui te meut.
Oui, moi, au départ, je gagnais beaucoup de fric, donc j'ai voulu m'en passer, donc je me suis mis à écrire. Et ça marche très, très bien. Là, je conseille à toute personne voulant diminuer son statut social d'écrire. J'ai toujours écrit, mais toujours. Parce que j'ai jamais su parler. À 5 ans, 6 ans, quand il fallait que je communique avec quelqu'un, j'avais besoin de prendre un crayon, un bout de papier et de le balancer. Alors, ça a duré, par la suite, ça m'a permis de draguer les copines, de dire aux copains que je voulais pas jouer au foot avec eux. Je vous rassure, j'ai été footballeur par la suite, mais voilà, c'était ça, c'était mon moyen de communication. Globalement, j'ai jamais pensé devenir écrivain. Je le suis devenu totalement par hasard le jour où j'en ai eu marre de travailler pour quelqu'un d'autre ou de créer des entreprises. Et où une amie m'a dit « Écoute, depuis le temps que tu nous fais chier avec des courriers de 35 pages, il faudrait peut-être que tu envisages d'en faire ton métier. » Je lui ai dit « Bah ouais, c'est sympa, c'est une belle idée. » Puis comme j'étais extrêmement naïf, je me suis lancé dedans. Vous savez pas ce qui m'est arrivé ? On m'a publié mes livres.
Et Jean-Philippe, alors, ce qui meut le nouvel écrivain que tu es, c'est la gloire, alors.
Oui, bien sûr, oui. Là, je sens que mon statut social aussi a fait des bons. Hein. Non, ce que disent aussi bien Greg Kayarda, ça fait écho chez moi. Ça me fait penser à un vieil auteur que j'aime beaucoup et à sa vocation d'écrivain. C'est Jean de la Bruyère, qui va faire des études de droit, qui va devenir avocat. Puis une fois qu'il est avocat, il se rend compte que d'une part, il est laid comme un pou, qu'il est affreusement complexé et qu'il est incapable de plaider. Du coup, reconversion logique, il devient écrivain. Moi, je trouve que c'est assez représentatif d'une belle vocation d'écrivain. Et alors, sinon, je me retrouve assez dans ce que vous dites tous les deux sur le fait que l'écriture, ça vient de l'enfance. Et ça a été pour moi l'occasion d'une prise de conscience et même d'une crise existentielle assez récente parce que moi aussi j'écris dès l'enfance, très tôt. J'avais envie d'être écrivain. Quand on m'a publié, que j'ai commencé à avoir une toute petite reconnaissance, je me suis dit ça y est, j'y suis arrivé. Je me suis dit là vraiment j'exerce ma liberté, j'ai fait ce que je voulais faire. Et puis je me suis interrogé, je me suis dit mais... Puisque j'ai toujours, dès l'enfance, voulu écrire, est-ce que c'est vraiment de la liberté ou est-ce que c'est du déterminisme? Qu'est-ce qui m'a déterminé à devenir ce que je suis? Et du coup, la question qu'on me pose ici, elle me gêne, puisque je ne sais pas y répondre. Qu'est-ce qui m'a déterminé à écrire? Je ne sais pas, c'est très vieux. Enfin, j'ai des soupçons, mais il faudrait que je vous paye pour vous le dire, parce qu'à partir de ce moment-là, on entrera dans une démarche analytique.
Et Lionel, c'est pour pouvoir avoir un stand d'ici aux Imaginales, dans la bulle, et pouvoir dédicacer tes livres aux jeunes femmes?
Exactement, et c'est surtout pour pouvoir justement avoir une chaise. Non, je suis aussi très ennuyé pour répondre à la question, d'une part parce qu'il y a énormément de choses très intelligentes qui ont déjà été dites, donc tout le monde va croire maintenant que je vais copier, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas très original, mais c'est vrai, je me reconnais aussi pas mal dans ce qui est dit concernant le fait que ça vient de l'enfance. Moi, il y a un truc qui me fascinait quand j'étais vraiment tout gamin, c'est que on pouvait écrire des choses à quelqu'un, et cette personne pouvait récupérer le papier sur lequel c'était écrit, et comprendre ce qui se passait, ce qui était dit, alors même que la personne originaire du message n'était pas là. Et moi, tout gosse, ça m'a absolument fasciné, ça fait une espèce de court-circuit dans mon cerveau, et je crois qu'il n'y a plus grand-chose qui a pu rentrer depuis, j'ai un tout petit cerveau. Donc j'ai voulu écrire assez très tôt, apprendre à savoir maîtriser ce pouvoir que je trouvais absolument fascinant, et puis je me suis mis à essayer d'écrire des histoires, et puis je me suis jamais vraiment arrêté, mais... Moi, du coup, finalement, vers l'âge de 18-20 ans, j'étais parti pour faire complètement autre chose. J'étais parti pour faire de la science, pour étudier les océans. J'étais parti pour faire cette chose-là. Mais il y avait toujours quelque part dans l'arrière de ma tête un truc qui disait « Ouais, mais il y a un moment, je vais écrire. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais il y a un moment, je sais pas comment je vais faire. Et puis, mes études finies, j'ai eu envie d'essayer. Et puis, je me suis rendu compte que, finalement, j'étais vraiment pas fait pour faire de la science.
Et Greg Kiss, pourquoi a-t-il choisi de s'exprimer en tant qu'écrivain dans les territoires qui nous occupent ici, et particulièrement en fantasy?
I'm not sure about the answer to that either, but I think it's because what I read growing up was mostly science fiction as a child.
Je suis pas sûre de la réponse, mais bon, ce que je lisais la plupart du temps quand j'étais enfant, c'était la science-fiction d'abord. Et originellement, c'est ça que je voulais écrire, et originellement, c'est ça que j'ai écrit au départ.
I only discovered fantasy when I was probably 13 years old.
J'ai découvert la fantasy quand j'avais probablement 13 ans.
When I accidentally read the last book of Tolkien's trilogy.
Quand j'ai lu par accident le dernier livre du Seigneur des Anneaux.
Because the cover had these lizards on it.
Parce que, vous savez, les couvertures avaient des espèces de lézards dessus.
The cover from the 60s, you remember this?
Oui, les couvertures des années 60, quoi, vous voyez.
And so I thought it was science fiction.
Et donc, je pensais que c'était de la science-fiction.
And I read part of it, and it was the third book.
Et j'en ai lu des bouts, et puis c'était le troisième tome.
And I still read it.
And you?
And I still finished it.
Et je l'ai terminé.
Not even knowing what was going on.
Et je savais même pas ce qui se passait en fait.
And so after that, that's what I wanted to read, and that's what I wanted to write.
Et bon, après ça, c'est ça que je voulais lire, et c'est ça que je voulais écrire.
I think that I have a yearning for. I have a yearning to understand the mythology that drives us all and has driven us all for years.
En fait, je pense que j'ai un profond désir de comprendre la mythologie et and the mythology and the.
That has driven us all for years.
Qui nous motive, qui nous pousse depuis des années.
I studied anthropology.
Donc j'ai étudié l'anthropologie.
And then the same things that attracted me to that attracted me to fantasy attracted me to anthropology. This desire to know.
En fait, c'est les mêmes choses qui m'ont attiré vers l'anthropologie étaient les mêmes choses que celles qui m'attiraient dans la fantasy, en fait.
How we as human beings are situated in our myths.
Comment nous, en tant qu'êtres humains, nous nous situons par rapport à nos mythes.
Ce sont les mythes aussi qui ont poussé à Heyerdahl à écrire, qui a plutôt été vers la science-fiction au départ, mais c'est très mélangé quand même ce qu'il fait, c'est très aux marges des genres.
Moi, j'ai pas eu de chance. J'ai grandi dans un milieu un petit peu particulier, dans un tout petit F4, on était 6 à vivre dedans, et l'essentiel, tout ce qui était espace disponible était consacré à des bouquins. Et dedans, il y avait 95% de bouquins de science-fiction. Mon père avait la deuxième collection de science-fiction européenne, juste après celle de Pierre Versin. Et donc chaque fois qu'on prenait un bouquin au hasard, histoire de pas avoir l'air con aux chiottes devant du PQ, toi, c'était un bouquin de SF. Donc voilà, j'ai lu ça. Ça m'a amené petit à petit à forger mon propre imaginaire. Ça m'a amené à m'intéresser à différentes sciences, les sciences inexactes et les sciences inhumaines. Et ça m'a amené à avoir envie aussi de mettre mon grain de sel dedans, de dire tiens, ben voilà, c'est rigolo, j'ai un truc à dire, comment puis-je le dire? Et il se trouve que j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir des profs de français qui m'ont détesté parce que j'écrivais très bien, mais que je parlais de choses qu'ils ne comprenaient pas. Parce que quand j'écrivais, quand on faisait une dissertation, quel que soit le thème, j'avais toujours besoin de ramener ça à des... Alors quand on était dans les sciences humaines, à des sciences exactes, et quand on était dans les sciences exactes, à des sciences humaines. Ben voilà, c'est parti, et puis c'est resté. Et puis j'ai jamais pensé devenir écrivain, moi. Ça m'est tombé dessus le jour où j'en voulais plus. Quand je me suis mis à écrire, forcément, il y avait un domaine dans lequel je me sentais très 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 à l'aise, c'était la science-fiction. Petit à petit, avec le temps qui passe, il y a eu des envies de faire d'autres choses, d'être de plus en plus proche du réel, parce que la science-fiction, comme on me l'a parfois reproché ou comme on me l'a parfois vanté, je m'en servais que comme métaphore. Je ne fais que décrire le monde que je connais, l'humanité telle que je connais. Et éventuellement, de temps en temps, je prends un petit peu je fais de la prospective, essayer d'imaginer ce qui va nous paraître intéressant ou nous paraître inintéressant. Et en ce moment, je m'éloigne un petit peu de ça, hein, t'avais remarqué. Hein. En ce moment, je suis venu un petit peu plus dans le thriller. Mais quand j'écris des thrillers, je les écris comme un auteur de science-fiction. C'est-à-dire que je tiens compte aussi de toutes les sciences humaines, toutes les sciences exactes. Vous avez vu, au départ, j'ai dit un gros mot, inexact et inhumaine, et petit à petit, il faut quand même avouer que c'est une base principale sur laquelle je travaille. Toutes les relations humaines, toutes les interactions entre individus, tout ce qui fait qu'on peut être motivé par un certain nombre de choses, tout ce qui fait que... Il y a un truc tout bête, il y a un machin qui est apparu récemment, je crois que c'est l'année dernière, ça s'appelle un téléphone mobile. Ah, je suis en retard. Vous l'avez eu avant? Non. Voilà. Eh bien, on doit en tenir compte. Il y a un truc qui m'a fasciné, je lis du polar depuis très longtemps, et dans le polar, il n'y avait toujours pas de téléphone mobile apparu avant 2004 en France, ce qui était extrêmement amusant. Et moi, auteur de SF, fier de ma technologie et de ma science, scientifiologie. J'ai failli dire une bêtise là. Eh ben, j'ai mis des téléphones mobiles et je m'en sers, quoi. C'est rigolo.
Et Lionel, ce genre, parce qu'il était couvé dans ce genre-là ou parce que c'est un choix?
Bah, les deux. Effectivement, j'ai été couvé là-dedans. Moi, j'ai grandi en rentrant de l'école, en regardant Star Trek sur la 5, religieusement, et en faisant des cauchemars après. Enfin bon. Non, déjà, effectivement, moi, j'ai élevé là-dedans. J'ai été élevé là-dedans. Mes deux parents étaient de gros lecteurs de SF de l'âge d'or, et donc, bah, forcément, c'est ce que j'ai été amené à lire assez vite. Après, à lire aussi plus tard, parce que le programme du cours de français globalement m'ennuyait prodigieusement, à part quelques rares qui m'ont permis de suivre aussi cette passion-là, en reconnaissant que c'était une vraie littérature. Mais surtout, ce qui me fascine dans l'imaginaire, c'est tout simplement cette science-fiction, fantasy, fantastique, etc. C'est simplement de pour moi, qui est une vision qui je trouve profondément émerveillante, même quand ces littératures-là font de la prospective un peu sombre, ce genre de choses, c'est que elles vont toutes se baser sur le même émerveillement profond du monde, même quand elles disent des choses noires. C'est simplement de dire le monde ne se limite pas à ce qu'on voit, à ce qu'on en sait. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a autre chose plus loin, dans le passé, dans l'avenir, sur d'autres mondes, en imaginant qu'il y ait une forme de magie qui soit possible, etc. Bref, on ne se limite pas au monde tel qu'il est, on le prend différemment. Moi, je trouve que c'est une vision très poétique et très émerveillante. Et moi, c'est ça qui m'attire profondément dans littérature de l'imaginaire, c'est celle de vouloir rêver à d'autres mondes, d'autres planètes, des mondes de fantasy, un avenir proche, etc. Ou même à essayer de voir quelque chose de magique dans notre vie de tous les jours. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a un peu peut-être tendance à perdre dans nos vies modernes, etc. C'est cette capacité d'émerveillement. Et moi, vraiment, c'est ça qui m'attire très profondément, et c'est avec ça que j'ai envie de jouer, parce que, tout simplement, j'ai pas envie de croire que le monde se limite à un truc très basique et très ennuyeux, finalement.
Jean-Philippe, sans remonter, sans vouloir être le psychanalyste, l'enfance, le déclic qui a fait que vous vous intéressiez, non pas nécessairement à vouloir devenir écrivain, mais à ce genre de littérature, puisque c'est là-dedans que vous avez commencé, pourquoi ?
Bon, alors là, on va faire de la psychanalyse. Moi, à la différence de mes voisins...
On ne paye pas.
Hein. Ouais, de toute manière, j'ai plus rien sur moi. Donc, vous allez être forcé de m'écouter sans que je vous veille. À la différence de mes voisins, pour qui la SF et la fantasy, manifestement, voilà, SF surtout, était une littérature prisée en famille, chez moi, c'était une littérature très mal vue. Donc, moi, quand je l'ai découvert, j'ai goûté les plaisirs de la transgression. J'étais un rebelle dans mon coin. J'étais un rebelle dans mon coin, en m'enfilant du Tolkien, du Poul Anderson, enfin bref, des ouvrages pas sérieux. Alors, à côté de ça, moi, comme j'étais bon en français... que j'étais suffisamment hypocrite pour sembler apprécier aussi les œuvres que me donnaient mes profs, que j'étais tellement hypocrite d'ailleurs que j'ai fini par devenir prof de français. Eh bien, j'ai lu en parallèle une littérature académique classique acceptée socialement et une littérature sulfureuse vers laquelle mon cœur a balancé puisque j'ai fini par en produire. Sinon, la gratification que je continue à y trouver, maintenant quand même que c'est un peu dépassé, hein, ce goût pour la transgression, c'est que c'est un formidable espace de liberté. Effectivement, c'est un formidable espace d'évasion. Et puis, il y a aussi, au niveau de la fantasy, un goût pour le mythe et pour l'histoire. Euh, une de vos collègues du jury des Imagines, Anne Besson, a écrit que le récit de fantasy décrit ou raconte une histoire qui a la charnière entre le temps du mythe et le temps de l'histoire. Et dans la mesure où je suis aussi passionné d'histoire, dans la mesure où le mythe m'intéresse, la fantasy, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est l'occasion de montrer la circulation qui peut exister dans un récit entre mythe et histoire.
Lionel Davout a parlé de ces littératures de l'imaginaire en disant « Enfin, c'est des littératures qui me font rêver. » Mais est-ce que le principe de l'écrivain, c'est de rêver tout seul ou de faire rêver? C'est Greg qui doit répondre.
Je pense que c'est de façon inquestionnable, oui, c'est les deux, définitivement les deux.
I don't think you can make people dream without dreaming yourself.
Je pense pas qu'on puisse faire rêver les gens sans rêver soi-même.
And at times when I'm writing, it's technical.
Parfois, quand j'écris, c'est très technique.
But at times I'm entirely lost. Entirely lost in a dream, sort of a dream-like state.
Mais parfois, je suis complètement perdu dans une espèce d'état de rêve.
I think the best places in my writing, when I was writing them, there was almost a hallucinatory quality. Hallucinatory.
Oui. Je pense que dans les meilleurs morceaux de ce que j'ai écrit, il y avait une espèce de qualité hallucinatoire là-dedans. J'étais peut-être dans un état un peu comme ça.
But I certainly would say that though I want to make people dream, though I write for people, largely it's also for myself.
Mais je dirais que oui, si je veux tout de même faire rêver les gens, et c'est aussi pour ça que j'écris en grande partie aussi pour moi-même.
And maybe it is therapy.
Et peut-être qu'en effet, c'est de la thérapie.
Or maybe it allows me to express the worst parts of myself in ways that don't hurt people.
Et peut-être que ça me permet aussi d'exprimer les plus mauvaises parts de moi-même d'une façon qui ne fasse pas mal aux gens.
Mais vous écrivez pour faire rêver, mais vous n'écrivez pas que pour ça, je suppose. Je suppose que vous avez envie non seulement de raconter des histoires, mais de raconter des histoires, j'allais dire, édifiantes à Heyerdahl. Tu as envie de faire bouger les choses.
Quel plaisir que de pouvoir reciter pour la 142 millième fois la fonction de l'écrivain et de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Jean-Paul Sartre a écrit ça tout à fait par hasard en soulevant une frite un jour et moi ça m'a beaucoup marqué parce que j'aime pas les frites qui ne sont pas belges, donc et je reste convaincu de ça. J'ai commencé à écrire parce que je ne savais pas parler. Donc vous avez échappé à l'un des plus mauvais politiciens du monde. Donc je communique à vous, malheureusement, des choses qui sont parfois des douleurs, parfois des colères, parfois des envies, parfois des désirs. Parfois, voilà, ça part comme ça. Et je le fais de plus en plus avec le souci d'essayer non plus de m'apporter quelque chose à moi dans ma douleur du monde, mais éventuellement je suis très exigeant, je vous demande de participer peut-être à la construction d'un monde qui soit différent de celui qui ne me plaît pas du tout.
Lionel, c'est un exercice aussi fort que tu as envie de faire en écrivant?
Moi, j'aurais envie de dire, j'ai une hiérarchie très claire. Quand je pars sur quelque chose, j'adore me renseigner sur tout un tas de sujets. Je suis terrible. Je suis un peu comme les chats qui voient des ficelles devant eux. C'est oh là, c'est intéressant. Ah, et puis là aussi, j'adore me partir dans tous les sens. Et le problème, c'est que je peux pas devenir spécialiste dans tout, même si j'aimerais bien. Donc j'aime bien jouer avec des concepts, et la fiction permet de le faire, permet de poser des questions. Moi, je prétends absolument pas, parce que je, justement, comme j'ai une culture extrêmement superficielle sur un tas de trucs, je me sens absolument pas qualifié pour. Alors évidemment, il y a des choses qui me révoltent, qui m'énervent, etc. Mais je me sens absolument pas. J'ose pas essayer d'apporter une vision du monde. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais je m'en sens pas capable. Donc moi, je me considère absolument pas comme quelqu'un qui réfléchit. Je me vois vraiment, quand j'écris, je cherche avant tout à essayer de raconter une bonne histoire. Après, j'aime bien essayer d'ouvrir des portes et de poser des questions. Mais c'est véritablement, ça s'arrête là. L'histoire passe avant toute chose. Je me considère vraiment comme un type, un conteur, un type qui raconte des histoires et qui essaie de faire en sorte que le lecteur passe un bon moment. Et derrière, si je peux essayer d'ouvrir des portes et ouvrir des questions, j'en suis ravi et je m'efforce de le faire pour éventuellement, si le lecteur passe un bon moment, déjà je considère que j'ai fait une grande partie de mon boulot, et si en plus le lecteur referme le bouquin et que ça peut éventuellement lui faire poser des questions auxquelles il va trouver ses propres réponses, alors là moi je suis aux anges. Voilà, mais je cherche vraiment juste à éventuellement essayer de poser des questions, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, en tout cas moi c'est ce qui m'amuse de faire dans la fiction, c'est au-delà de l'histoire, au-delà du récit, du moment, du bon moment que le lecteur passe, c'est éventuellement le pousser à, enfin l'inciter s'il accepte de jouer le jeu, à éventuellement réfléchir d'une façon différente à d'autres choses, poser des questions. Voilà, je prétends certainement pas avoir de réponse d'ailleurs. Dans La Volonté du Dragon, j'étais allé voir des lecteurs qui sont pas des lecteurs de fantasy de science-fiction, et ils m'avaient dit c'est une intéressante métaphore des conflits coloniaux aujourd'hui. Et moi j'ai dit ok, si c'est ce que vous voyez là-dedans, moi je parle juste d'un empire, et des empires il y en a depuis la nuit des temps. Donc c'est vrai que malheureusement je crains que les empires n'aient pas trop évolué au fil du temps. Moi j'étais allé m'inspirer aux sources de l'Antiquité, manifestement ça n'a pas évolué, donc voilà, c'est des questions intéressantes. Je cherchais pas forcément à dire ça, mais ils l'y ont vu, ils ont entièrement raison de l'y avoir vu. Le lecteur fait 50% du boulot en fait, moi je fais qu'ouvrir des portes.
Jean-Philippe, je ne veux pas vous laisser dans la position du psychanalysé dans le fauteuil, mais Greg Kayes a parlé de thérapie. Est-ce que l'écriture est une thérapie pour l'écrivain?
Je pense qu'il y a des écritures qui peuvent être des thérapies, en particulier quand l'écriture devient cathartique, qu'elle sert à exprimer des souffrances, des frustrations, pourquoi pas des rêves, hein, ou qu'elle formalise des névroses, voire des psychoses. Après tout, on a des génies littéraires qui ont été des fous, hein, et dont la folie a généré des chefs-d'œuvre. Hein, dont bon, je pense en particulier à Nerval, parce que Nerval est dans Aurélia décrit sa psychose, et finalement on n'est pas très loin d'un récit de fantasy. Maintenant, je suis pas sûr que l'écriture soit toujours une thérapie. L'écriture peut être jubilatoire pour l'écrivain ou pour le public, sans pour autant véhiculer une pathologie quelconque. Alors, pour moi, est-ce que c'est une thérapie? Ce que je fais en ce moment, oui. Mais face à la feuille blanche, je ne pense pas. Face à la feuille, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse avec le texte. Je m'amuse avec le public que je rêve. Je sème des petits cailloux, puis je me demande, je les cache plus ou moins, et puis je m'amuse en me demandant qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont interpréter, est-ce qu'ils vont y voir ce que moi j'y ai mis ou ce que j'ai voulu y mettre, ou est-ce qu'ils vont suivre les pistes ou les fausses pistes que j'ai mises. Donc je m'amuse pas mal en fait. C'est du jeu.
Jean-Philippe parlait du jeu et de savoir si après les lecteurs vont trouver les cailloux semés. Est-ce que quand vous écrivez Y, c'est aussi au lecteur que vous pensez, ou d'abord à votre propre amusement?
No, I certainly am thinking about the reader having fun as well. I have fun when I'm writing.
Oui, certainement. Je pense à amuser le lecteur, mais je m'amuse aussi beaucoup quand j'écris moi-même.
I'm writing a book right now, and the character is actually not particularly smart.
J'écris un livre en ce moment, et le personnage n'est pas tout à fait intelligent, pas vraiment intelligent.
And part of the game for the reader is to catch the things that he's missing.
Et ce qui fait partie du jeu pour le lecteur, c'est de comprendre les trucs que lui il rate.
And I'm doing this, you know, this is a particular strategy that I'm using in this book.
Et voilà, j'ai cette stratégie particulière pour amuser les gens dans ce livre-là.
But as an author, I know what's going on, so I don't get any particular enjoyment out of that particular strategy.
Et donc, mais bon, moi, en tant qu'auteur, je sais ce qui se passe dans mon livre, donc je m'amuse pas vraiment. Enfin, j'en tire pas vraiment un amusement à part de savoir que j'ai cette petite stratégie pour amuser les gens.
But to an earlier point, I'm starting to think maybe you're right. It's not therapy.
It's not
therapy.
Yeah. Mais pour revenir au point précédent, je pense que vous avez raison. C'est pas vraiment de la thérapie.
Maybe it is writing is just a pathology.
Peut-être que en fait c'est juste l'écriture qui est une pathologie.
And we're all very sick.
Et nous sommes tous très malades.
Justement, en parlant de maladie, il y a une espèce de mythe de l'écrivain qui souffre en écrivant. Et est-ce que Heyerdahl il est comme ça? Est-ce qu'il souffre? Ou est-ce qu'il jubile comme Jean-Philippe Jaworski?
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Heyerdahl est persuadé qu'on ne peut pas être performant dans ce merveilleux métier de l'écriture, même quand ce n'est pas un métier, mais qu'un violon dingue. Quand on rentre de la mine à 21h pour se mettre à écrire du fond de son HLM. Donc il y a besoin quand même d'un certain plaisir et d'une certaine liberté. Je ne pense pas que la littérature soit ni pour l'auteur ni pour le lecteur une thérapie. Je ne crois pas non plus que nous soyons en psychanalyse au-delà de notre deuxième ou troisième roman. Parce que pendant un, c'est bête, un jour on démarre, on commence à écrire et puis on se sert uniquement de soi-même. Après on s'aperçoit qu'on devient quelque chose de vachement plus intéressant, c'est Dieu est maître du monde. Ouais, on crée des univers, on fait ce qu'on veut des gens, on les emmène où on veut, ça c'est la deuxième étape. La troisième, la pire, c'est qu'on est Dieu et maître du monde de ce qu'on écrit et aussi éventuellement de ce que le lecteur lit. On va petit à petit les emmener à adorer un personnage qu'on déteste soi et que eux devraient flinguer instantanément s'ils étaient des êtres humains. Je vous rassure, je le sais très bien, je n'ai pas de lecteurs humains. Mais dans l'ensemble, pour ceux qui ont eu la malchance de tomber sur mes deux derniers bouquins, vous savez le plaisir que je prends à vous faire aimer des gens, mais normalement, vous réclameriez encore la peine de mort contre eux. Voilà. J'ai été assez sadique ou...
Mais justement, Heyerdahl parle de ce plaisir qu'il y a de mener, d'être Dieu et de mener son monde où il veut et ses personnages où il veut. Il y a un autre mythe de l'écrivain qui est que les personnages lui échappent. Il y a même des écrivains qui disent, quand je retourne le lendemain matin à mon ordinateur, j'aimerais bien savoir, je suis curieux de savoir ce que les personnages ont fait pendant la nuit. Est-ce que ça vous arrive, là, Lionel?
Quand les personnages se mettent à me parler alors que je suis en train de conduire ma voiture et que je suis arrêté au feu rouge, je me dis que c'est bon, je peux commencer à les écrire.
Un point de moins,
Je pense qu'un bon personnage, effectivement, il faut qu'il vive sa vie, et il y a un petit côté un peu schizophrène de l'écrivain. En tout cas, moi, ça fait ça, où il y a une espèce de personnage qui est un petit peu au loin dans la brume, et puis on se met à discuter avec lui en disant, bon alors, ok, t'es qui toi? Cela dit, je pense qu'il faut absolument que quand même l'auteur garde le contrôle sur son histoire et sur ce qu'il veut faire. Et ça peut impliquer éventuellement de remonter en amont, de passer le pauvre personnage à travers un terrible lavage de cerveau pour le façonner exactement comme on veut, pour qu'il prenne le chemin qu'on veut. J'ai eu plusieurs fois le problème où je suis arrivé au milieu de l'écriture et je me suis rendu compte que le personnage que je n'avais probablement pas assez bien défini ou que j'avais peut-être trop écouté, suivait très gentiment le scénario que je lui avais tracé, mais ne le vivait absolument pas comme il le fallait. Donc, ni une ni deux, on reprend du début, on fait subir un lavage de cerveau, on reconstruit, on refaçonne le personnage qui devient un type absolument complètement différent, de façon à ce qu'il suive à ce qu'ils servent finalement l'histoire qu'on cherchait à faire pour que l'histoire ait plus de force en fait. C'est pas simplement pour être juste un marionnettiste, mais c'est pour que l'histoire qu'on s'efforce de raconter et les questions qu'on s'efforce d'ouvrir soient servies le mieux possible par les personnages et le décor, etc. Donc il y a une espèce de... Moi j'aime bien planifier les choses à l'avance et donc avoir les personnages qui vont pouvoir servir l'histoire et le discours que j'essaie de faire de la façon finalement qui soit la plus efficace pour le lecteur et qu'il en retire le maximum de plaisir.
Lionel l'a encore écrit, en tout cas n'est publié qu'un seul roman.
Et un recueil de nouvelles.
Il y a un recueil de nouvelles, mais un roman court, des nouvelles. Greg Cleese, lui, il a des romans longs, sur plusieurs tomes, avec plein de personnages. Est-ce que Greg se prend pour Dieu parmi cette faune de personnages, ou est-ce que les personnages quittent son paradis terrestre? Ou les personnages osent-ils quitter son paradis terrestre et vivre leur propre vie?
Well, if I am a god in the worlds that I create, I'm more of an Olympian than a Christian god.
Bon, eh bien, s'il fallait que je sois un dieu dans les mondes que je crée pour mes personnages, je serais plutôt un dieu olympien qu'un dieu chrétien.
I'm you know, sort of a mortal, flawed god whose characters at times get the best of him.
Excuse me.
I'm a mortal and flawed god whose characters at times get the best of him.
Je suis une espèce de dieu mortel, plein de défauts et faillibles, dont les personnages se jouent parfois.
In almost any book I've ever written, I've had the characters do this, do things that I had not planned for them to do in the outline.
Et dans presque tous les livres que j'ai écrits, j'ai eu ce problème, j'ai eu des personnages qui faisaient pas du tout ce que j'avais prévu pour eux dans le plan initial.
Like Lionel, and it's because
comme Lionel.
And it's because I reached that point in the story that I outlined and realized that this guy would never do that.
Parce que à un moment, j'atteins un certain point dans le plan et je réalise que ce personnage-là ne ferait jamais ça.
But I'm too lazy to go back to the beginning and start over like that.
Mais moi, je suis trop feignant pour revenir au début et tout recommencer depuis le début comme lui.
So instead, the story spins out of control.
Donc à la place, bon, c'est juste que l'histoire échappe à tout contrôle.
Until I can bring it back under control.
Et jusqu'à ce que je puisse la ramener sous mon contrôle.
And then another character does something else crazy.
Et là, à ce moment-là, un autre personnage se met à faire aussi n'importe quoi.
And part of this is why I like writing. This is part of what I like about it.
Et en fait, ça fait partie de ce que j'aime dans l'écriture. Ça fait partie de ce que j'aime dans mon procédé d'écriture.
And I do think it's a mild form of schizophrenia.
Et je pense que c'est une forme mineure de schizophrénie, en effet.
Pour écrire Heyerdahl, vous... Enfin, je vais poser la question à tout le monde. Vous avez une façon, un lieu où vous devez écrire, des heures. Vous écrivez comme vous allez au bureau ou bien vous faites ça quand vous le désirez, quand vous avez l'inspiration?
Alors, l'inspiration elle est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans ma tête une centaine de personnages, une dizaine d'histoires, des envies, des colères, des choses qui font que je sais que je vais devoir écrire des choses. Ça peut parfois rester là 3 mois, parfois 3 ans, parfois 10 ans, parfois 20 ans. C'est ça. Mais ça fait longtemps que j'écris maintenant. Je suis devenu un vieil écrivain. Donc il y a cette habitude de nourrir en permanence des personnages qui sont là et qui font partie, pas de ma vie, mais de mon imaginaire, parce que j'essaye de ne jamais confondre les deux. Ça m'est arrivé en début de carrière, hein. Je dois avouer qu'il y a eu un moment où je ne savais plus très bien ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Non, maintenant c'est relativement clair. Par contre, il y a une réserve colossale, et c'est plus les personnages et les interactions entre personnages qui sont présentes tout le temps dans ma tête. Les histoires, elles naissent de ce que notre merveilleux monde me permet de découvrir de temps en temps, de ces petits coups de colère, de ces petits coups de cœur. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire. Je pense que Jean-Philippe, là-dessus, est peut-être un petit peu plus...
Ce que je voulais savoir aussi, c'est, est-ce que tu t'astreins à... J'écris de 8h du matin à midi...
Non, alors, ben voilà, j'ai pas voulu répondre à la question. C'est très simple. J'écris pour manger. Et il y a des périodes où c'est merveilleux, donc j'ai moins besoin d'écrire, donc plus de m'informer, de rencontrer le monde, de rencontrer les gens, de voyager. En fait, ce qui nourrit mon imaginaire, c'est très simple, c'est vous. Hein, c'est ce que vous faites entre vous, pas forcément entre vous là, hein, vous avez bien compris, c'est l'humanité. Et puis il y a des périodes où j'ai besoin de manger. Et là, ce sont des contraintes qui sont en fonction de ce que le banquier râle. Ça a nécessité sur les deux dernières années de travailler à temps complet. Vous savez pas ce que c'est qu'un temps complet, hein. C'est 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Voilà. Et puis il y a d'autres périodes où je préfère travailler en toute liberté, c'est-à-dire pendant 3 mois je fais rien, mais rien. Je me contente de rencontrer des gens, de vivre des événements, et puis c'est beaucoup plus agréable pour moi de travailler quand je suis libre d'écrire plutôt que quand le frigo est vide. Mais quand le frigo est vide, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis efficace.
Lionel.
Moi j'ai la chance de écrire de plus en plus pour manger, et donc de manger de moins en moins.
Ça se voit.
Ce qui me fait le plus grand bien. Moi, j'essaye de plus en plus, autant que possible, de m'éloigner vraiment des rituels, parce que je suis un horrible procrastinateur. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui sont d'horribles procrastinateurs, et je crois beaucoup à à la valeur de la discipline dans l'écriture. Et donc, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse soleil, que j'ai envie, pas envie, tous les jours, j'en fais. Et même si je sens que ça veut pas, je m'astreins à rester devant le fauteuil jusqu'à ce que, non pas devant le fauteuil, plutôt assis dessus, mais devant l'écran, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et en tout cas, j'ai le plaisir de pouvoir faire deux fois faire des ateliers d'écriture. Il y en avait un aux Imaginales. Moi, j'ai m'efforcé de faire passer le message aux écrivains qui étaient face à Elisabeth Von Arbour et moi, qui était apprendre à écrire, c'est apprendre à se connaître soi-même. Quelque chose auquel je crois très fort, en fait. Il faut que je reste assis devant l'écran et que je me force. Et il y a un moment où le barrage casse et ça peut prendre 1 heure, 2 heures à rester assis devant, à taper des trucs, à faire. Est-ce que c'est mauvais ? Et puis il y a un moment où on fait plus gaffe et puis ça passe. Donc vraiment, moi je suis probablement parce que je sais que j'ai une tendance à papillonner. Je me tiens la dragée haute et je m'efforce d'être aussi discipliné que possible.
Jean-Philippe ?
Alors, moi, puisque comme je suis un bon vivant, que j'aime bien manger, j'ai toujours un métier à côté de l'écriture. J'ai parfois, effectivement, quand on vient de la mine, on a parfois du mal à se mettre à écrire. Et donc, parfois, je reviens du boulot et je suis sec. Et pourtant, je suis persuadé, comme le dit Lionel, que la discipline est une vertu. Et j'aurais aussi une tendance à la procrastination. Alors, ça devient très compliqué. J'ai plusieurs options. Quand je sens que ça ne vient pas, je joue, ça me vide l'esprit, et ensuite j'ai les idées plus claires. Ou je vais courir en forêt, et au bout d'une demi-heure, j'ai les idées plus claires. Et après, je peux écrire. Plus ou moins, parfois très peu, mais l'essentiel, comme tu le dis, c'est d'écrire chaque jour, en fait. L'autre facteur qui aide à écrire, c'est de s'imposer des contraintes. Et pas seulement des contraintes horaires, mais des contraintes stylistiques. Et j'en reviens au jeu, là, pour le coup. Se poser tel ou tel défi, même des défis ridicules, et puis s'imposer de les remplir. Et c'est générateur, peut-être pas d'inspiration, mais en tout cas de production, et parfois c'est créatif.
Et Greg, il s'astreint à une discipline pour écrire.
It's changed a lot over the years.
Ça a beaucoup changé en fait au fil des années.
When I first started seriously writing novels, I only had 3 months and a year to do it.
En fait, quand j'ai commencé pour la première fois à écrire sérieusement des romans, je n'avais que 3 mois dans l'année pour le faire.
After ironing the newspapers, I entered graduate school.
Après avoir repassé des journaux, j'étais à l'université.
So in the summer, I worked 8 hours a day, just like a regular job.
Et donc pendant l'été, je travaillais 8 heures par jour comme un boulot normal.
Writing. I just took lunch and that otherwise 8 hours a day.
Et vous voyez, j'écrivais, je déjeunais, mais sinon je travaillais 8 heures par jour.
I was extremely disciplined about
J'étais
it.
Extrêmement discipliné là-dessus.
Then the more successful I became and when I was out of graduate school.
Donc quand je suis sorti de l'université et quand j'ai commencé à avoir un peu de succès,
the less disciplined I became.
De plus en plus, plus j'ai eu du succès en fait, moins je suis devenu discipliné.
To the point that I then was maybe working a couple of hours a day and then playing the rest of the time.
Jusqu'au point où je finissais par travailler que 2 heures par jour et puis après je passais le reste de ma journée à jouer.
And then a month before my deadline, I have to work 8 hours a day.
Et là, un mois avant ma deadline, avant ma date butoir, il fallait que je travaille 8 heures par jour.
Every day.
Tous les jours.
Now I have a 4-year-old son and a 2-year-old daughter.
Maintenant, j'ai un garçon de 4 ans, un petit garçon de 4 ans, une petite fille de 2 ans.
And I'm the one taking care of them.
Et c'est moi qui m'occupe d'eux.
So I have 3 hours a day to work.
Donc j'ai 3 heures par jour pour écrire.
And so I must, by default, be disciplined again.
Et donc je dois être discipliné à nouveau. Ouais, voilà.
Il y a une chose qui est très très. Vous m'entendez là? Parce que moi non. Hein. Une chose qui est très rigolote, j'ai la chance depuis 2 ans de vivre avec quelqu'un qui pratique le même métier que moi. Est à la fois auteur et traducteur. Alors quand je dis que c'est une chance, c'est extraordinaire. On ne se marche jamais dessus en termes de travail. On sait tous les deux ce que c'est que le travail. C'est tant que c'est pas fini, on ne mange pas.
S'il y a des gens qui viennent vous demander des conseils pour moi, je voudrais devenir écrivain. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil si ça arrive, Lionel?
C'est une question très compliquée parce que soit ça peut être un truc qui peut prendre des heures et des heures parce qu'on a envie de dire des tas de choses, soit il faut être extrêmement concis. Moi, j'aurais vraiment envie de revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui est que écrire, c'est déjà. Déjà, c'est véritablement une méthode, un travail. On a un peu le mythe en France, mais bon ailleurs, que l'écriture, c'est absolument génial. Vous asseyez à la table avec les cheveux dans le vent, avec votre bloc et voilà, c'est comme ça, au sommet d'une falaise, alors que les cieux vous accompagnent avec de la foudre et tout ça. Et puis il y a la foudre qui vous tombe dessus. Vous commencez à écrire et c'est génial. Bon, moi, j'ai pas cette chance. C'est beaucoup plus difficile que ça. En ce qui me concerne, il y a une part de technique qui est véritable et qui pour moi est très importante dans l'écriture. Tous les arts ont leur technique. Un musicien il fait des gammes, un peintre il apprend les lois de la perspective. L'écriture c'est la même chose. Il y a une technique derrière. Il y a évidemment une part d'inspiration, mais cette inspiration elle doit être canalisée à travers la technique. Mais cette technique elle s'apprend surtout avec le temps. Et je pense que l'essentiel, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on veut commencer à apprendre à écrire, il faut expérimenter tout le temps, écrire tout le temps. Robert Heinlein, c'est la première règle de Robert Heinlein, écrit. Et il faut tester des choses, expérimenter simplement pour apprendre à se connaître soi-même. D'une part, pour savoir comment on a besoin de travailler. Est-ce qu'on a besoin effectivement de se discipliner, de se fouetter, parce que sinon on sait qu'on fera rien. Ou est-ce qu'on a besoin d'aller se promener pour que ça se décante et que ça apparaisse. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a juste la façon qui convient à la personne. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est véritablement trouver en soi ce qu'on a envie de dire et ce dont on a envie de traiter. Elisabeth von Harbour le dit très bien dans son livre sur l'écriture, le corps sait. Il y a un moment quand on réfléchit à un truc, en général on tombe sur un truc, on fait ah ouais c'est ça, et j'exagère pas, on est tout seul, on surprend à sautiller comme un abruti sur la chaise en disant ouais j'ai trouvé, super. Donc voilà, apprendre, enfin moi je pense c'est probablement le, j'ai beaucoup lutte technique, etc., pour parvenir à finalement un truc d'une ligne. J'aurais pu m'épargner beaucoup de lectures de technique finalement. C'est que faut voilà, je pense que c'est chercher en soi ce qu'on a à dire et puis chercher en soi comment on a envie de travailler.
Greg, on vous pose souvent la question, je veux devenir écrivain, donnez-moi des conseils.
Yeah, of course. I mean, I think they probably do to anybody that's published.
Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, on fait ça à quelqu'un, n'importe qui est publié.
You know, I think, you know, people also come to me and say, I have this great idea for you that you can make into a story.
Et parce que en fait, les gens viennent souvent me voir et me disent, j'ai cette super idée et comment est-ce que je pourrais en faire une histoire.
But I've never found that the.
Comment vous pourriez en faire?
Ah. Ah oui, comment vous pourriez en faire une histoire? Oui.
But I've never found that I lack ideas.
Mais en fait, j'ai jamais manqué d'idées moi-même.
And I think a lot of writers think that people who want to be writers think that it's about the idea.
Parce que en fait, je pense que beaucoup des gens qui veulent devenir écrivains pensent que c'est une question d'idées.
But it's been, I think what separates writers from people who aren't writers isn't the ideas.
Mais je pense que ce qui sépare les gens qui sont écrivains des gens qui ne sont pas écrivains, c'est pas les idées.
Or intelligence or genius.
Ou l'intelligence ou le génie.
It's the sheer unnatural ability to sit down long enough to write something.
C'est la capacité non naturelle en fait de rester assis assez longtemps pour pouvoir écrire.
And so I just tell them to write and write and write and write.
Et donc je leur dis juste d'écrire comme Lionel.
And we were the other day we were talking about Heinlein's rules, right?
Et le jour dernier, on était en train de parler de des règles de Robarène, c'est ça? De Robert Heinlein, ouais.
Yeah. Write.
Écrire.
Finish what you write, and this is a big one.
Finir ce que vous écrivez, et ça c'est important.
Send what you write off to be, reviewed by an editor.
Envoyez ce que vous avez écrit pour qu'il soit lu par un éditeur.
Try to forget it and write something else.
Essayez de l'oublier et écrivez quelque chose d'autre.
That's it.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous avez déjà pensé à laisser tomber, quitter le métier d'écrivain?
Oui. 1997, pour la première fois, je me fais un gros coup de lassitude et je décide d'arrêter d'écrire. Et je décide de me prendre un vrai métier, un vrai boulot, un truc qui rapporte vraiment de l'argent. Peintre. Non. Un truc qui nécessite aucune compétence. Il se trouve que à ce moment-là, je vivais avec quelqu'un qui m'a fait comprendre que éventuellement le seul truc que je savais faire, c'était écrire et que ça restait viable, hein, financièrement. Et j'ai insisté un petit peu, insisté beaucoup, même peut-être trop. J'aurais dû m'arrêter à cette période-là. Derrière, je me suis fait 7 années de dépression, dont 6 ans pendant lesquels j'ai pas écrit, ce qui explique le trou entre mes 2 derniers livres. Je pouvais plus, mais j'avais l'impression que c'était le métier, que c'était l'écriture, que c'était non pas que j'avais plus rien à dire, mais j'avais plus envie de le faire, et que c'était le seul problème de mon existence. Et ben franchement, quand on en est là, il faut revoir tout le reste. Mais parfois la couleur de ses chaussures, ou éventuellement la teinte de son chat, ou c'est pas très important. Mais oui, j'ai eu envie d'arrêter d'écrire. J'aurais dû le faire à ce moment-là. Ça m'aurait évité de prendre conscience par la suite que c'était toute ma vie que je devais revoir. Ce n'est pas que je n'avais plus rien à dire, c'était que je n'étais plus capable d'exprimer quoi que ce soit pour personne.
Mais aujourd'hui, tu es content d'avoir recommencé ?
Alors, non seulement je suis content d'avoir recommencé, j'ai retrouvé une... de temps en temps, entre nous, on dit la puissance d'écriture, tu vois. Waouh, ça c'est le truc. Hein. C'est super. Le matin, je me lève, j'ai envie que de ça. Et quand je me jette dedans, j'abats 3500 pages par jour. Je suis obligé de signer de plein de noms différents. Hein. Javorski, Kais, Devoust. Non, vous rendez pas compte de ce que j'écris tous les jours. Non, la puissance d'écriture, c'est tout bêtement quand on a envisagé d'écrire une histoire, quand on commence à maîtriser ses personnages, quand on sait ce qu'on veut dire, être capable de le faire sans que ça pose de problème. Oublier de manger à midi, oublier de manger le soir, oublier de manger la nuit. Enfin, à un moment donné, c'est... quand le médecin est là et commence à mettre en intraveineuse des trucs, tu te dis, tiens, mon bouquin va être bon.
Et Greg, il a déjà pensé à faire autre chose que de l'écriture ?
Well, initially I thought I was going to be an anthropologist.
Au début, je pensais que j'allais être anthropologiste.
And then I thought maybe I would be an anthropologist and also a writer.
Et puis après, j'ai commencé à me dire que je serais peut-être anthropologiste et aussi écrivain.
Because when I was in school, I felt that the balance between writing academic things.
Parce que quand j'étais à l'université, en fait, je pensais que l'équilibre entre écrire des papiers académiques.
and fantasy fiction.
Et la fiction, la fantasy.
Sort of stabilized me. It kept me from losing my mind.
Me stabiliser en fait d'une certaine façon et m'empêcher de perdre la tête.
But now I don't do academic writing anymore.
Mais maintenant je n'écris plus de je ne fais plus de travaux académiques.
So my mind's pretty much gone.
Donc je suis devenu un peu mon esprit m'a un peu quitté.
And I don't think I can do anything else.
Et non, je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit d'autre.
But I have considered it if it ever reaches the point that the only thing I'm able to write are things I don't want to.
Parce que mais j'ai considéré la chose et si jamais j'atteins le point où je suis plus capable d'écrire ce que je veux écrire.
Things that I don't enjoy writing.
Ou alors si je suis obligé d'écrire des choses qui ne me plaisent plus.
Then I'll sell cigarettes from a box or something.
Maintenant, bon alors dans ce cas-là je vendrai des cigarettes ou quelque chose de ce genre-là.
Lionel et Jean-Philippe, vous êtes des jeunes écrivains au tout début. C'est des choses que vous voulez absolument continuer.
Complètement, absolument. C'est. Je suis fréquemment posé la question de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me dire, mais je suis en train d'avoir un melon pas possible. Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'avoir la démarche de venir. Je suis en train d'écrire des trucs et je le fais avec suffisamment d'assiduité parce que je vais penser qu'il y a des gens que ça va intéresser. Mais il faut être absolument égocentrique pour faire un truc pareil. Mais bah maintenant. C'est non moi je c'est toujours ce que j'ai ouais toujours ce que j'ai vraiment voulu faire et envie de faire et quand je pense je frémis en pensant à tous les trucs que j'aurais envie de raconter mais je me dis que je crains de pas avoir assez de temps en fait pour le faire et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de critiques très positives et des gens adorables qui sont venus me voir et qui m'ont dit énormément de choses très gentilles sur l'écriture et même parfois le bien que ça leur avait fait et je me dis que quelque part j'ai peut-être pas entièrement tort de faire ce que je fais. Moi j'ai envie de le faire. Je dirais que bon, s'il y a des gens que ça intéresse, quelque part ça m'autorise à continuer.
Jean-Philippe, va-t-il quitter l'éducation nationale?
Va-t-il quitter l'éducation nationale? Ah, même parfois un peu plus tôt, parce qu'il est privilégié et il n'a que 15 heures de cours devant élève. Hein. Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, j'y ai réfléchi et je me suis même dit que dans l'hypothèse assez peu probable où ce que je publie me permettait de gagner des 100 et des 1000, mais là je me fais de moins en moins d'illusions après tout ce que j'ai entendu sur ma droite.
C'est si bien payé que ça, l'éducation nationale.
Même dans cette hypothèse-là, je pense que je garderai au moins une classe. Parce que, alors c'est particulier puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu l'hypocrisie de poursuivre jusqu'à faire un cursus de lettres puis à être prof de lettres. Et j'ai une autre relation en texte à travers les cours, étant donné que je passe une partie de mon temps à faire de l'analyse de texte avec les gamins. Et c'est intéressant à plusieurs titres. Premièrement, parce que je fais mes gammes, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que je vais chercher dans les œuvres les procédés que les concurrents emploient. Et puis, bien sûr, je les leur pique. D'autre part, parce que je trouve que quand on écrit, finalement, on n'a qu'un retour différé. Alors, si on a de la chance, un retour positif. Si on n'a pas de chance, un retour négatif. Pour être écrivain aussi, moi, j'ajouterais qu'il faut quand même avoir... au départ, en tout cas, il faut aimer prendre des râteaux. Hein. Donc, on a des retours qui sont des retours différés, des retours pas forcément positifs. Et par conséquent, l'écriture, ça reste un métier extrêmement solitaire, même si ça donne l'occasion de rencontrer, même si on a besoin d'ailleurs de rencontrer des gens pour nourrir son écriture. Mais le temps de l'écriture est toujours un temps différé par rapport au temps du contact. Alors que dans le cadre du cours, on voit un public réagir sur d'autres textes que les siens. J'ai pas encore poussé le narcissisme jusqu'à donner mes propres œuvres à mes élèves. Mais on voit réagir, en tout cas, directement un public au texte. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté cher. Donc je pense que je continuerai à écrire. Ceci dit, je ne lâcherai pas l'écriture. Parce que, comme le disait Greg, à juste titre, c'est une pathologie et que je fuis les psychiatres. Par conséquent, je continuerai à écrire.
Merci. Ben, il est 19h, donc on va mettre fin à ce débat. Merci Greg Case, merci Jean-Philippe Jaworski, Ayordal et Lionel Davou. Merci aussi à Naïg qui a, depuis 4 jours, traduit plein de débats. Je voudrais encore la solliciter pour une dernière question à Greg. Depuis le début, il nous parle de repasser ses journaux. À quoi ça pouvait bien servir ? Il repassait ses journaux, mais pourquoi ?
Non, mais il repassait les journaux à l'université parce qu'il devait être microfilmé. Il fallait qu'il soit bien plat avant d'être microfilmé.
Eh bien voilà, je n'avais pas entendu cela. Excusez-moi.
Non, je ne faisais pas ça chez moi.
I can't think of better hobbies than that.
J'arrive pas à imaginer un loisir plus fun que ça.
I worked for the University of Georgia and we had to iron them. So they could be microfilmed.
Non, je travaillais pour l'université de Géorgie et il fallait qu'il soit plat pour être microfilmé.
And the woman that was my boss.
Et la femme qui était mon chef.
Just as an aside. Just by the way.
Juste comme ça, je vous dis ça comme ça.
Thought that stars were quite small and quite near.
Thought that what?
Stars.
Je pensais que les étoiles étaient
petites
et proches. Ouais.
Quite small, quite close.
Ouais, elle était petite et très proche.
She's not a good boss.
C'était pas une bonne chef.
Bon, enfin, maintenant, avec vos deux enfants, vous pouvez repasser. Vous avez la main pour repasser chez vous après votre travail d'écriture. Merci à tout le monde. Merci au public et bonne soirée encore.
Et merci à Jean-Claude.